Maintenant, nous allons tout de suite passer à la chronique de Seb. Alors, comment tu veux procéder ? D'abord, tu nous exposes le sujet et puis on réagira par la suite.
Oui, surtout que j'avais l'intention d'en discuter carrément avec vous, c'est-à-dire de lancer un peu des idées et de voir ce qu'elles vous inspirent, si ça vous fait réagir, si vous êtes encore capable de bosser, parce que moi aussi je me liquéfie.
35 degrés, facile, c'est difficile, c'est vrai.
Tu sais, tu es extrêmement troublant car tu as la voix suave et je vois ton poitrail dénudé.
S'il te plaît, Cobalt, s'il te plaît.
Donc,
non, c'est bon.
et je dois dire que c'est extrêmement troublant.
Oh là là.
Bon allez, on va essayer de se concentrer un petit peu. Alors bon bah vas-y, lance-toi.
Alors, d'abord je préviens nos auditeurs que c'est un peu la suite du retour de la vengeance, de ce qu'on n'a pas fini avec Pogo, la fois où on a fait une interview fleuve à Orchidée, parce qu'il restait des trucs à dire.
Eh oui.
En l'occurrence, à ce moment-là j'avais fait vite fait allusion aux fonctions du MJ, et on avait dit qu'on expliquerait plus tard. Voilà, plusieurs mois plus tard, après ce suspense délirant, on va finir sur cette histoire-là. Globalement, les fonctions du MJ, à quoi ça sert de se poser la question ? Le principe, c'est que quand on est en train de faire du jeu de rôle, spécialement quand on est le meneur de la partie de jeu de rôle, on fait énormément de trucs en même temps. Non seulement, effectivement, on essaye de garder la main sur les chips pour avoir quelque chose à se mettre dans le bec, mais on a besoin de faire du roleplay, on a besoin de gérer un scénar, on a besoin de faire en sorte que la parole tourne un petit peu autour de la table, on a besoin de gérer des tas de règles, la plupart du temps, puisque ces connards de joueurs ne font pas leur boulot et vous laissent vous démerder, spécialement à DD4. Et
c'est vrai.
Pendant qu'on fait tout ça, on essaye aussi, et c'est théoriquement le boulot principal, de faire passer de l'émotion. On essaye que les gens ils aient un peu peur quand le vampire les attrape soudain en sortant de l'ombre. On espère qu'ils seront vachement tentés d'aller piller le trésor. Et tout ça, ça nécessite, en tout cas pour le MJ, de jongler avec tout un tas de notions. L'idée, c'est que si on prend un peu le temps de réfléchir à rassembler tous ces gestes de MJ en quelques fonctions, on pourrait peut-être prendre le temps de se pencher un peu dessus et de voir jusqu'où on pourrait aller avec.
Allons-y.
La première fonction, elle est absolument pas obligatoire, mais il y a toujours un petit bout qui reste, c'est la fonction de scénariste. Même si vous faites jouer une campagne ou un scénar que vous avez acheté, vous allez toujours être obligé de l'adapter un petit peu pour vos joueurs, mais aussi de le rallonger, d'amener de nouveaux éléments, et évidemment de réagir aux nombreuses âneries que vos joueurs vont inventer pour faire semblant de tenter de résoudre le truc. À partir de là... Si on a préparé un peu ça avant, on peut faire plusieurs choses extrêmement intéressantes. La plus géniale d'entre elles étant, dès le départ, pendant qu'on prépare, on essaye de se faire plaisir. Parce que si on arrive à s'amuser pendant qu'on fait le scénariste, qu'on se soit parce qu'on a écrit 3 lignes de dialogue pour préparer la scène finale, ou parce qu'on a conçu une campagne qui va être jouée sur 30 séances, pour peu qu'on s'amuse soi, il y a de bonnes chances pour qu'on arrive à le transmettre. Si on s'amuse pas trop... Il y a des chances pour qu'on arrive à transmettre le fait qu'on se fait chier. Et ça, vraiment, c'était pas la peine de venir. Donc, effectivement, la première fonction, c'est d'anticiper sur les émotions qu'on va essayer de fourguer. Et finalement, il me semble à moi que le boulot de scénariste, spécialement en jeu de rôle, c'est de lancer des émotions à la tête des joueurs. Et d'essayer de voir si on pourrait les organiser dans un sens qui ferait... qui raconte un peu une histoire, évidemment, qui éventuellement ait un sens en tant que tel, où on a l'impression d'avoir appris des trucs, changé, compris. Mais globalement, essayer de trouver des émotions qui, pour le MJ, soient agréables à mettre en scène et à préparer, et histoire de ne pas se faire chier avant qu'on ait commencé.
Oui, ce serait mieux qu'il ne se fasse pas chier aussi pendant sa préparation.
Et puis, c'est un peu comme la cuisine, si vous ne faites pas plaisir en le faisant, c'est moins appétissant à la fin. C'est pas que ce soit magique, c'est juste que l'état d'esprit dans lequel vous bossez a une influence sur le résultat.
Mais alors, je vais me faire un peu l'avocat du diable, mais est-ce que tu penses que, parce que dans mon expérience personnelle, ça ne s'est pas passé, mais c'est, je conçois que ça puisse être le cas, que tu te fasses chier ou que tu prépares ça en disant « Ouais, j'ai vraiment pas envie, mais vu que mes joueurs ont envie de jouer ça, je vais me forcer un petit peu ».
Tu l'as jamais fait ?
Comme mais après je conçois que ça puisse exister, comme des fois tu dis allez ce soir j'ai pas envie de voir tel film, mais bon puisque ma copine insiste ou autre métaphore sexuelle, mais je sais pas, moi enfin Du coup, effectivement, après, pour moi, c'est assez logique, hein, c'est-à-dire, comme tu le dis, que si tu prépares un truc en y allant à reculons, j'ai du mal à voir comment ça peut marcher. C'est pour ça que j'ai du mal à voir comment sa situation peut se présenter.
Cela dit, il y a aussi le fait de prendre conscience du plaisir de la préparation. Je sais qu'il y a, il y a, il y a quelques temps, j'avais fait un scénar, machin, et je m'étais dit, tiens, pour une fois, je vais préparer mon scénar. Et donc, je m'étais beaucoup amusé, j'avais testé mes voix de gobelin, tout ça, en faisant des gestes et des machins, bref. Et du coup, en fait, quand je les maîtrisais, j'avais toutes les ficelles du gobelin. Et j'y ai pris beaucoup de plaisir.
Alors d'abord, effectivement, je pense que c'est important, quitte à devoir préparer un truc pour pouvoir s'amuser derrière, de commencer à s'amuser tout de suite.
Oui,
et
ça,
autant
ça,
se faire plaisir.
Mais
le deuxième aspect, c'est comme c'est un peu une fonction créative. À partir du moment où on essaye d'écrire un peu des choses, en tout cas, même si on ne les rédige pas, de préparer des histoires, des choses comme ça. Je me pose pas en expert, mais une partie de mon job, c'est de faire de la créa et d'enseigner de la créa. Et un truc qu'on constate très très souvent, c'est que les gens ont peur. On a peur de pas être à la hauteur de ses hautes ambitions scénaristiques. On a peur de... Il y a des gens qui ont peur de faire la voix du gobelin. Parce qu'ils se disent que ça va être nul, que ça va pas faire vraiment marrer les potes, ou voilà. Quand on essaye d'attaquer les sujets un peu plus sérieux, un peu plus profonds, par exemple, mettons qu'on joue à Don't Trust Your Head. J'ai bien dit.
C'est magnifique.
Je te remercie, je me suis entraîné tout l'après-midi.
C'était pas amusant pour le coup. De s'entraîner tout l'après-midi pour le dire, c'est ça?
Si, on a essayé d'y trouver un plaisir. C'est plus compliqué.
Excuse-moi.
Mais je t'en prie. Donc, si tu joues à un jeu comme ça où tu essayes d'amener une émotion un peu plus complexe, le fait de l'avoir un peu préparé ou d'y avoir réfléchi, il y a des gens qui gèlent.
Ouais.
On n'ose pas vraiment, et puis il y a aussi un effet dont je parlais il n'y a pas très longtemps avec un copain de jeu de rôle qui me disait, c'est je prépare un super scénar, je me dis qu'il va être absolument formidable, et plus je le prépare, plus je me mets des enjeux vachement hauts, et puis je me dis que ce serait vraiment formidable si à un moment il y avait un combat de vaisseau qui se passe dans un volcan et tout explose à la fin, je me dis putain comment je vais faire ça, quoi. Et l'un des effets, c'est qu'on finit par se mettre des enjeux, ouais, c'est ça. D'abord des enjeux sur le dos, puis ensuite des bâtons dans les roues. Des fois, on n'évalue pas tout à fait la difficulté de ce qu'on veut faire. J'ai connu ainsi, jadis, un jeune MJ, c'était la deuxième fois qu'il maîtrisait, il a décidé qu'il allait nous faire une campagne de Néphilim. Et parce que c'était pas assez compliqué de jouer la campagne qui se passait en Bretagne, il a décidé qu'à chaque fois qu'on ferait un effet mnémos, on serait transporté dans la campagne des Arthuriades. Et parce que c'était pas assez compliqué, il décidait de changer de système. Et parce que c'était pas assez compliqué, il a commencé à mettre des intrigues vachement intéressantes au demeurant, mais où les joueurs étaient les uns contre les autres. Et en plus, il avait des joueurs chiants. Donc, des fois, on empile des difficultés parce qu'on se rend pas bien compte de ce qu'on fait. Et on finit par se bloquer. Mais sans aller jusqu'à faire la thérapie du MJ, il me semble simplement que l'élément le plus important quand on écrit un scénar, c'est de trouver un truc qui a de bonnes chances de faire plaisir aux autres et avec lequel déjà soit on va s'amuser au départ.
Ça peut peut-être passer aussi par l'autre côté, c'est-à-dire quand c'est un scénario de commande, les joueurs veulent jouer à tel jeu, je voudrais faire une partie d'un truc de western ou je ne sais quoi, t'es pas fan de western, mais déjà tu sais ce qu'eux ils recherchent, et essayer de savoir ce qu'ils trouvent bien dedans et qu'est-ce qu'ils aimeraient trouver dedans, et surtout de savoir ce qui n'est pas défini et quelle est ta marge de manœuvre et là où tu peux introduire justement ce qui toi te fait plaisir. Donc comme ça tout le monde est content, tout le monde a gagné.
Mais en fait je sais pourquoi ça m'est jamais arrivé, c'est parce que je suis un MJ tyrannique et que c'est assez rarement les joueurs qui me disent ah on aimerait jouer ça, c'est non, moi j'ai ça et on va y jouer, ok, ça vous plaît pas, ce sera la même chose.
Ah oui, c'est
un mec bien en fait.
J'ai des joueurs dociles, tu sais, au bout de plusieurs années t'arrives à les modeler et...
En fait c'est le syndrome de Stockholm, c'est ça?
C'est exactement ça. Ah oui, MJ, fais-moi mal.
Mais
ce sont tes choses, tu les as fait à ta main.
Exactement.
En tout cas j'aimais beaucoup cette proposition, et notamment le fait que, à mon avis, effectivement, le boulot d'un scénariste de jeu de rôle, alors après ça verse vers le game design et tout un tas d'autres notions, mais ça implique de savoir quand s'arrêter, les moments où on va arrêter soit de raconter des histoires pour que les joueurs puissent prendre la suite. Leur ménager de la place, leur ménager des leviers. Ce qu'on racontait un peu plus tôt dans la journée avec David, c'est la théorie du coffre à jouer. ça j'y reviendrai derrière, mais en gros c'est que l'un des boulots du MJ, c'est d'avoir un gros coffre plein de jouets, certains sont narratifs, certains sont franchement ludiques. Si vous filez un tank à vos joueurs, il y a des chances pour qu'ils soient plus ludiques que narratifs, mais ils peuvent déjà bien se marrer avec. Et à chaque fois que vous fournissez de ces jouets tirés de votre grand coffre qui est un peu cohérent parce que vous l'avez un peu écrit et que vous l'avez un peu déterminé dans un contexte, il y a de bonnes chances pour que les joueurs jouent avec et vous rendent de l'histoire qu'ils auront transformé avec les jouets que vous leur avez filés. Ils l'auront repeint d'une autre couleur, ils auront rajouté des pattes. Mais évidemment, avec un peu de chance, il y a un échange, oui.
Oui, mais ça suppose justement, pour rebondir sur ce que disait Com, d'accepter d'une part de ne pas tout contrôler, donc d'être pas contrôle fric dans l'absolu. Je sais pas une critique que je te fais, Com.
Mais
j'ai bien compris, mais c'est pour ça que je profite du truc. Donc d'être d'un côté contrôle fric, donc d'être prêt à accepter que les joueurs donnent. Et en même temps aussi de donner non pas ce que seulement les joueurs veulent, mais aussi donner un peu de soi-même. Donc ça veut dire c'est des deux côtés. On doit se dévoiler des deux côtés entre guillemets.
Ah oui, il y a aussi, faut se mettre un peu les tripes sur la table si on veut que si on veut pouvoir échanger de l'émotion avec des gens. À un moment, faut accepter d'en ressentir notamment. Et sur cette idée de partage, on va pouvoir glisser habilement vers une autre fonction du MJ, qui est le boulot d'animateur. J'ai tendance à trouver, moi, c'est un peu souvent négligé.
Un peu plus près du micro.
Je vais tâcher d'être encore plus près du micro.
Oh la vache.
Là, on prend cher. Mais vas-y, reste plus près du micro, on préfère prendre cher. On est maso.
Ça me donne envie de chanter un gospel quelconque. Bref, je vais vous épargner ça.
Ce qui est aussi le rôle d'animateur.
C'est ça. Donc, il y a le rôle d'animateur radio, où on est censé avoir une voix sensuelle qui vous emmène jusqu'au bout de la nuit. Donc en l'occurrence, le boulot d'animateur, on a tendance à le déconsidérer un peu parce que c'est pas un boulot ludique, c'est pas un boulot créatif et c'est pas un boulot narratif particulièrement. C'est le boulot où vous êtes le gentil organisateur. C'est pas forcément vous qui faites tourner les chips autour de la table, mais vous faites tourner le temps de parole. Vous prenez le temps de vous préoccuper peut-être plus que vos joueurs, parce que vous avez généralement une vision plus d'ensemble et moins d'enjeux directs personnels et pas votre perso à gérer toutes ses complexités, ses points de vue, etc. De vous préoccuper que tout le monde joue d'abord. Ça veut dire aussi que quand on est scénariste et qu'on envisage qu'on va être animateur derrière, c'est sympa de préparer des petits bouts qui vont intéresser tout le monde. Si vous faites un scénar orienté combat exclusivement et que vous avez un investigateur dans le groupe et que bon, tout ce qu'il peut faire c'est compter les cartouches, le mec il va se faire chier. Ça c'est dommage, ça ralentit une partie de jeu de rôle. Ça veut dire qu'il y a quand même un type qui est probablement un humain en vrai. Et que peut-être même un mec que vous aimez bien qui va passer une soirée à attendre que peut-être il se passe un truc pour lui. L'animateur, c'est aussi aller chercher le petit mouton égaré pour le ramener vers la grande bergerie narrative. Celle-là, j'espère que tu l'as enregistré.
dans ma langue, ça donnerait il faut donner à manger à tout le monde en fait.
Oui, tout à fait. Et notamment parce que.
Oh la vache, les métaphores!
Ouais, non, mais on cartonne!
Je préférais la métaphore de la bergerie.
Bah ouais, mais non, mais moi je suis pas poétique comme monsieur. Heureusement qu'il est là, Sébastien.
Non, mais effectivement, tout le monde nourrit le scénar, et normalement, on se nourrit les uns les autres. Et l'animateur, il a aussi un peu ce boulot-là. Et il a un autre boulot qui peut être à la limite de l'animateur de télévision, qui est sortir les aides de jeu, faire vivre un peu, expliquer ce qu'il raconte. Éventuellement faire un petit peu de pédagogie, notamment si on tient compte du différentiel très classique entre le joueur et le personnage, et le fait que lorsque vous jouez un tueur en série, vous n'êtes pas super forcément calé en découpage de corps, un truc comme ça. Enfin, vous, je sais pas, mais enfin, moi, je fais de mon mieux, mais vraiment, les expériences pratiques, j'ai pas vraiment l'occasion.
Tu regardes comment c'est découpé chez le boucher, c'est le dessin avec les pointillés.
C'est ça. Tout à fait. Alors, tu te pointes avec ton feutre à chaque fois que tu fais une victime.
Tu vas chez un boucher d'humain, donc.
Ah non, mais tu trouves de tout dans le 18e.
Je te rappelle qu'il s'appelle Cobal.
Donc, bref.
En tout cas. Il y a différence entre le joueur et son personnage implique que régulièrement quelqu'un, souvent le bouquin ou le MJ lui-même, rappelle au joueur ce que son personnage est censé savoir et ce que le joueur lui est pas obligé de savoir par cœur. Ça peut être le background du jeu, ça peut être plein de choses comme ça. Ça aussi c'est un peu le boulot d'animateur. C'est un peu un boulot de prof, très vaguement, mais en tout cas c'est servir un peu de béquilles et des béquilles sur lesquelles on va pas se contenter de boiter. Mais si elles sont bien stables, les joueurs vont pouvoir commencer à se marrer un peu, faire des soleils avec. Et si par exemple, vous avez un joueur qui a décidé de jouer, je ne sais pas moi, un hacker, et qu'il n'est pas hyper calé en informatique ou qu'il ne connaît pas le système par cœur, faire en sorte que lui aussi il s'amuse quand même, parce qu'on va lui passer les manettes au fur et à mesure en lui disant « Bon, alors là, si tu appuies là-dessus, il peut se passer ça ou ça, comment est-ce que tu veux t'aider, quel risque tu prends ?» Et notamment aider la parole à circuler, mais parfois juste à faire en sorte qu'elle sorte des joueurs.
D'autant plus que ça évite un autre écueil qui est aussi de faire dérailler le scénario ou de le mener dans une impasse parce que les joueurs n'exploitent pas les capacités de leur personnage en un sens. Moi, j'ai eu ce cas-là récemment dans un scénario d'enquête où justement, j'avais pas géré ça, cet aspect-là. Par exemple, je sais pas, le mec, il est agent du FBI et théoriquement, un agent du FBI sait qu'il ne devrait pas faire telle chose. Genre, voilà, je dis une connerie, mais genre emprisonner un journaliste, c'est pas exactement ce qui s'est passé, mais on va dire que
d'accord,
c'est ça.
Okay.
Et en fait, ce que j'aurais dû faire, c'est dire non, ton personnage sait que c'est vraiment pas une bonne idée de faire ça, que légalement t'as pas le droit, etc. Et en fait, et là, je sais pas pourquoi, sur ce coup-là, j'ai pas réagi. Et donc, j'ai fait ok, tu fais ça. Et du coup, les emmerdes se sont empilées sur sa tête. Alors que si j'avais fait mon boulot d'animateur, ça aurait évité ce genre d'accueil.
Oui,
quoi.
Parce que lui n'en avait pas conscience.
Mais le personnage aurait dû. Ouais.
Sachant que tu n'as pas besoin non plus de tenir les joueurs par la main, hein, tu peux leur proposer un choix en disant
oui, bien sûr.
Ton personnage qui s'y connaît voilà. Sait qu'il est en train de faire une
est-ce
grosse
que
connerie.
Est-ce que tu fais quand même ou pas
ouais, est-ce que tu as vraiment envie de la faire? Est-ce que tu considères que les gains sont supérieurs aux coûts?
Non, mais l'idée, c'est, voilà, c'est de les laisser faire leur connerie s'ils veulent, mais en connaissance de cause. C'est pas très intéressant de dire, par exemple, tu décides de sauter par la fenêtre, t'avais oublié qu'on était au 15e étage, bah tant pis pour toi, alors que t'es mort. Alors que normalement, j'ai vu ça sur Casus comme anecdote, alors que le personnage, a priori, n'oublie pas un seul instant qu'il est au 15e étage, à moins qu'il y ait vraiment un truc incroyable qui soit en train de se passer.
Oui, s'il a vu un Shoggoth, par exemple,
voilà,
ou un
c'est
truc
ça.
Comme ça.
Pareil pour dans un scénario d'enquête, genre le personnage a appris une information, le joueur l'a pas noté, et là le MJ un peu sadique dit tu as pas noté, bah tu sais plus, tant pis pour toi. Ça, c'est des trucs un peu...
Oui.
Heureusement que moi, on ne me fait pas ça, parce que... Vache.
Ah oui, oui, il faut savoir que David a un problème avec les informations, et parfois, ça crée des effets très drôles sur des intrigues avec un type mystérieux dont on cherche le nom depuis longtemps.
Ah oui, pendant des semaines, mais c'est qui ce mec et tout. Ah, c'est lui. Ah bah ouais, je l'ai noté depuis le début.
Mais donc, en tout cas, cette fonction d'animateur, on peut lui ajouter des modules de luxe. Parce qu'on peut aller un peu plus loin, en tout cas si ça vous intéresse.
Tu peux tuner le...
des néons.
Tu peux tuner le concept. Alors, il y a des néons, il y a tout un tas de conneries qu'on peut faire en multimédia, on peut passer des images à ses joueurs. C'est vrai que la plupart du temps, je joue avec un ordinateur derrière moi, tourné vers les joueurs. Quand je suis en train de consulter mon scénar, je le tourne un peu plus vers moi, mais normalement, bon, il suffit qu'il y ait un peu d'angle pour qu'ils n'arrivent pas à lire. Mais surtout, ça permet de leur montrer des images. Et dans certains cas, on peut aller assez loin dans le multimédia. On peut, j'ai eu l'occasion de faire ça il y a longtemps, sur un scénar où les joueurs poursuivent des truands en hélicoptère à la frontière entre la Hollande, puis la Belgique, puis la France. Et en fait, on était sur Google Maps et on suivait l'autoroute à toute vitesse. Et on leur disait, là, vous arrivez sur un embranchement, ça va être un peu difficile, il y a des embouteillages. Quand ils décidaient de prendre plus de hauteur, plus d'altitude pour voir plus loin et pour pouvoir anticiper davantage, on dézoomait sur Google Maps. On peut faire pas mal de conneries en mise en scène qui permettent aux joueurs d'être davantage dedans. Donc là encore, d'éviter de se rendre compte qu'au moment où ils enjambent l'appui de fenêtre, qu'ils sont quand même au 15e étage. Et en plus, ça permet de soutenir tout un tas de bons réflexes qui vont aussi être parfois des réflexes émotionnels. Donc le joueur qui commence à enjamber le parapet du 15e étage et qui se dit « En fait, on est au 15e étage, mais il y a un incendie à l'intérieur, qu'est-ce que je fais? J'ai très peur. J'appelle à l'aide alors qu'on m'entend pas. Les pompiers sont tout petits en bas. Est-ce qu'ils vont me voir ?» Et effectivement, en tout cas, on peut anticiper ce genre de truc avec simplement des idées un peu multimédia, un peu de musique au bon moment. J'ai pendant quelques années terrorisé des joueurs avec une musique piquée à Michael Nyman, où c'était juste un petit mouvement de piano. Et comme à chaque fois qu'ils avaient entendu ce morceau de piano pendant les 3 ou 4 premières séances, ils avaient une grosse tuile. Ensuite, si je le passais en début de séance, ils commençaient à stresser tout de suite. Ils n'avaient pas encore jeté les dés, ils se rappelaient de ce qu'ils avaient fait la dernière fois.
C'est pavlovien. Est-ce qu'ils bavaient?
C'est un peu le principe, oui. Et alors, jusqu'au moment où les joueurs ont fini par se révolter et par me demander d'arrêter de le mettre. Donc des fois, voilà, même quand on décide de faire animateur, on fait un peu ce que le public veut. C'est pas de la démagogie, c'est juste qu'on n'est pas censé... Il est torturé exprès non plus, pas trop longtemps si ça se voit.
Je peux te poser la question de quelle musique de film c'était extrait?
C'était tiré de la BO de Eyes Wide Shut. Et c'est le petit machin au piano qui fait ding 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 ding.
Parce que Michael Kamen est quand même spécialiste d'avoir terrorisé sa femme sur certaines BO bien terrorisées, bien flippantes. Le mec qui voit les morts avant qu'elles se passent. Je sais plus comment ça s'appelait.
Ils Sixième sens.
Ils en avaient fait une série.
Oh, là,
il
c'est fait, après qu'elle se
il
passe.
Avait fait, il avait fait la BO et en fait, pendant qu'il a fait la BO, sa femme refusait qu'il travaille quand elle était là parce qu'elle elle était terrifiée.
Destination finale.
Non, c'était pas ça. D'accord. Je me rappelle plus.
Ouais, on mettra sur le site.
J'aurais essayé.
Si on
c'est
rappelle.
Ça. Et assez vite, évidemment, cette fonction d'animateur, notamment quand on essaye de passer des émotions, elle va rejoindre la fonction de compteur. Alors c'est juste une manière de mettre un mot sur le fait que toute la mise en scène, dans une partie de jeu de rôle, elle est live. On n'enregistre pas trop les trucs à l'avance. Et toute la partie réalisation, ce qui généralement demande le plus de technique et le plus d'effort, et parfois le plus d'art, entre guillemets, lorsque vous faites un film, une BD, un bouquin, et vous allez pouvoir marquer du style, vous, MJ, vous allez devoir le faire en live devant vos joueurs avec leur participation. Et le boulot de narration, à mes yeux, mais alors peut-être aurez-vous des contre-propositions ou une analyse différente, repose en grande partie sur le fait de rendre sensible l'univers et ce qu'on est en train de faire. J'entends, il suffit pas de dire ceci est le plan de la grande place et les cow-boys adverses sont en train d'arriver par telle rue. Il faut que ça se sente, il faut qu'on prenne un peu le temps de mettre les joueurs dans la peau des types couverts de sueur, alors ce soir on arrive à s'imaginer, qui mangent de la poussière depuis 3 jours, qui ont enfin retrouvé le bandit qui a tué leur pote, et qui le remarquent à 50 mètres de là, et qui prennent le temps de se regarder, qui prennent le temps de se reconnaître, de se demander ce qu'ils vont faire ensuite, de faire légèrement jouer leur pistolet dans leur holster... toutes petites choses qui vont permettre
de
d'amener...
De mettre de l'huile dans cette porte qui couine depuis le début de la scène.
Par exemple, on peut réparer le décor si c'est très important. En tout cas, effectivement, faire des choses qui, sans avoir une importance ludique majeure, vont permettre aux joueurs d'entrer doucement dans la scène. Et évidemment, non seulement d'y gagner des réflexes beaucoup plus cohérents, parce que maintenant ils y sont vraiment. Donc ils n'oublient pas qu'ils sont au 15e étage, ils n'oublient pas qu'ils ont un flingue. Ils se mettent pas à danser la rumba parce qu'ils se disent que c'est la dernière connerie qu'ils pourraient faire avant de mourir. Ils essayent d'être dedans et non seulement ça les guide sur le jeu, mais évidemment ça commence à transmettre un peu d'émotion. Ça permet de rentrer un petit coin, de faire un petit trou dans leur indifférence parce que on se laisse pas toujours toucher exprès pendant une partie de jeu de rôle. Non, pas de jeu de mots pourris.
Pourquoi tu me regardes en me disant ça?
Parce que t'es le plus jeune et que c'est de toi que j'attends ce genre de.
Ah bah si tu attends, bon, je peux le faire.
Non, non, c'était une méfiance, c'est Dieu. Mais donc, plus sérieusement, c'est par ces petits gestes et par cette, un peu de mise en scène comme ça qu'on peut, à mes yeux, le plus facilement amener les joueurs à vraiment participer à la scène. Donc, non seulement à faire du roleplay, à avoir un peu de ressenti par rapport à ce qui se passe, à se sentir impliqué, mais aussi à agir vraiment dans un sens qui va être cohérent avec l'histoire et qui, éventuellement, va leur donner de meilleures idées ou des idées plus vastes. Et c'est là aussi qu'ils pourront faire des choix narratifs en tant que joueurs, en décidant qu'ils vont raconter l'histoire des mecs qui s'approchent du méchant et qui lui disent « Vraiment, on a besoin de toi pour un truc, t'es un salaud, on te déteste, mais on ne te tuera pas tout de suite. » Ou ici, ils vont raconter l'histoire de la bande de flingueurs qui ont décidé qu'ils allaient transformer la ville en passoire.
Mais est-ce que de ces trois rôles, celui-ci qui est le plus évident, que tout le monde, dont tout le monde est conscient, n'est pas forcément le plus difficile parce que les conseils et les ficelles qui permettent d'assumer ce rôle sont innombrables. Là où le scénariste qui doit justement prendre du plaisir, si tu résumes à prends du plaisir dans ce que tu fais et réponds en même temps à ce que veulent les joueurs pour le rôle donc de scénariste, ou la question pour l'animateur de fais attention qu'il y a à manger pour tout le monde, ça se résume assez bien. Pour le rôle de compteur, les cartes sont quoi, les ficelles sont très variées.
Oui, il y en a, non, il y en a vraiment beaucoup, mais en réalité, il y a des ficelles variées, des recettes variées et des conseils variés sur chacune des fonctions du MJ. Hein. Sur écrire des scénars, il y a plein de théories, il y a plein d'avis différents. Il y a, sur la fonction d'animateur, il y a effectivement des auteurs qui ont écrit plus ou moins dessus. Robin Lowes, par exemple, a pas mal parlé de ça, que ce soit la gestion de scénars ou simplement son principe qui est... à mon avis, non seulement assez évident, mais en plus très utile une fois qu'on l'a exprimé une bonne fois, qui est que quand on est en charge du plaisir d'autrui, si on a fait une construction scénaristique géniale avec laquelle on s'est éclaté tout seul, c'était peut-être pas la peine de prendre les autres en charge. Et si on a fait un truc scénaristiquement intéressant, humainement, on vient peut-être de passer pour un canard. Et prendre soin des gens qu'on reçoit, en gros, essayer d'être un bon hôte, c'est un peu la... Ça pourrait résumer le boulot d'animateur, par exemple. C'est une autre façon de voir les choses. Pour le boulot de narration, on peut résumer ça. Enfin, en tout cas, il me semble que moi, le minimum vital, c'est d'être les yeux et les oreilles des joueurs. Alors après, on pourrait rajouter d'autres sens et on pourrait leur faire battre le cœur un peu et leur dire, leur évoquer des souvenirs, ce qui m'arrive de faire quand je mène, notamment de rappeler aux joueurs que dans telle situation, ils en ont déjà vécu une, ça leur rappelle plutôt tel souvenir, et voir s'ils décident d'y réagir ou pas, s'ils décident de serrer les dents très fort, de ne pas pleurer et de passer à la suite, s'ils ont envie d'exprimer leur haine à ce moment-là, parce que c'est vraiment trop injuste tout ce qui leur arrive. Il y a plein de choses qu'on peut amener, qu'on peut signaler aux joueurs, en leur laissant toujours la possibilité de jouer avec, ou de ne pas le prendre, ou de ne pas le saisir. Mais si on veut résumer, à mes yeux en tout cas, la fonction de narration et la fonction de conteur qu'a un MJ, c'est transmettre des sensations aux joueurs, et à eux de voir s'ils arrivent à en faire des émotions ou pas.
Et quelle est ton opinion sur... le fait de le faire de manière... De laisser un peu plus le contrôle aux joueurs, ou alors de faire de manière plus active. Par exemple, si on reprend l'exemple de la scène de western que tu citais tout à l'heure, au lieu de dire... voilà, de leur faire, comme tu disais, un petit conte en disant bah voilà, il y a votre ennemi au loin depuis tout le temps que vous le recherchez, etc. De faire sentir attention comme ça. Juste de tourner vers le joueur et dire bah voilà, t'as ton ennemi en face. Qu'est-ce que ça te fait de le voir là après tant de mois, etc. C'est-à-dire de le faire sous forme de question.
Je vais finir d'avaler un grain de raisin, pardon. En fait, j'ai pas une opinion extrêmement tranchée sur le sujet. Je trouve que le concept est vachement intéressant. Et en tant que MJ, je commence à me faire une petite idée qu'on teste avec mes joueurs, et grâce à un autre copain MJ qui nous l'a fait goûter, c'est que lorsque les joueurs réussissent un jet de 2, c'est eux qui décrivent le résultat. Donc d'un seul coup, on arrête de vous embêter avec les règles de localisation, et quand vous faites une super attaque qui vient de tuer le méchant en une fois, vous avez le droit d'y mettre tout le gore, toute l'élégance, tous les détails que vous voulez, c'est votre scène. Vous prenez la main sur la scène. Ça marche plutôt pas mal. Par contre, tous les joueurs sont pas prêts à le faire.
Oui.
Tous les joueurs en ont pas envie. Et à mes yeux, c'est vrai que c'est vraiment une possibilité vachement intéressante à proposer à des joueurs, pour peu que ça les branche un peu, par contre.
Oui, c'est ça. La difficulté, c'est de savoir s'ils vont accepter ou si ça va leur faire plaisir de prendre le contrôle.
Il faut que ça puisse rester optionnel, en fait.
Je pense. Après, on peut être vachement incitatif avec des choses optionnelles. On peut faire en sorte que à chaque fois que quelqu'un décrit non seulement son action, mais l'état d'esprit de son personnage, il puisse y gagner, par exemple... un truc qu'on pratique, puisque j'ai le doux plaisir d'avoir Cobal parmi mes joueurs presque réguliers. on utilise un petit principe tout simple qui est que si vous voulez que votre personnage évolue, c'est-à-dire pas seulement progresse, mais éventuellement change, que son caractère se modifie, qu'éventuellement il empire, ça peut devenir un vrai con... Et il peut s'empirer de minute en minute, ou alors il peut simplement, comme c'est en train d'arriver sur une campagne, on a un assassin qui est en train de développer un début de conscience, il espère qu'il va faire croire à tout le monde que c'est un faux début de conscience, mais qu'ils vont y croire quand même, et que lui va réussir à rester un salaud, et évidemment c'est très à double tranchant, il se met les pieds dedans. Bon, on peut se marrer pas mal avec ça.
Comme c'est romantique.
N'est-ce pas? Oui, alors en plus on a des histoires de romance et des choses comme ça. Le mécanique le plus simple pour mettre ça en valeur, ça reste de permettre aux joueurs de gagner du pex parce qu'ils font évoluer leur perso. Votre barbare qui était un gros con décide d'apprendre à lire, il y passe du temps, vous prenez le temps de le décrire, on le voit faire des efforts, on le voit froncer le sourcil sous son casque à cornes, et à partir du moment où on y a passé un peu de temps, le joueur récupère du pex avec lequel il va pouvoir acheter son nouveau talent de lecture, et faire un peu vivre son perso, le faire évoluer. Il y a aussi des joueurs qui décident de les faire empirer, qui décident que leur personnage va devenir de plus en plus cruel, ou de plus en plus dépressif. J'ai ça actuellement dans une de mes campagnes. Un type qui jouait le chef de groupe a décidé qu'il lui arrivait tellement de trucs affreux que le chef du groupe est en pleine dépression et laisse les autres partir à volo, tout en disant « Non, mais de toute façon, moi je me sens pas capable. Voilà. » Donc j'augmente la pression autour du groupe de jeu pour voir à quel moment le chef va se dire « Bon, je vais quand même essayer de sauver les miches à tout le monde parce que cette bande d'abrutis vont pas y arriver seuls. »
Si on peut même plus se lamenter dans son coin.
C'est ça, tout à fait. C'est le héros puissant mais triste. Bon, en tout cas, voilà, on peut inciter pas mal de choses avec ça, avec très peu de mécanique. Et bah, écoute, je sais pas si ça répond complètement à ta question. Alors, bah, tout doucement, je vais glisser sur le... À moins que vous vouliez enchaîner sur celui-là. En tout cas, glisser vers la quatrième... enfin, vers la dernière fonction du MJ, puisqu'on est déjà... Je vais me rapprocher de mon micro, en plus, pendant ce temps-là. Voilà. Je vais y arriver. C'est vraiment l'impression de parler dans mes propres oreilles. C'est très étrange.
C'est le but.
D'accord. Donc, disais-je, la dernière fonction qui est un peu discutable, puisqu'on a déjà cité la fonction de scénariste, la fonction d'animateur et la fonction de compteur. Si je dis qu'elle est un peu discutable, c'est parce que si c'est une fonction à laquelle je tiens, elle n'est pas souvent prise en compte dans beaucoup de jeux de rôle et par beaucoup de MJ. C'est ce que chez moi on appelle assez simplement le machiniste. C'est comme un machiniste de théâtre et également vous êtes le pilote du train qui est votre histoire. Et votre boulot c'est de faire en sorte que ça tourne. Et que quand vous tirez la ficelle machin, on produise un peu de jeu, on fasse bouger le bateau en bois sur les vagues en carton, que ça tourne un peu, qu'on voit pas trop les cordages, les ficelles, les engrenages qui sont planqués derrière la scène, mais qu'au moins à chaque fois que quelqu'un veut faire quelque chose ou qu'on essaye de raconter une histoire particulière, le matériel nécessaire soit disponible et tourne.
Oui, donc c'est pas seulement le rythme en tant que tel de l'histoire, c'est vraiment voilà, faut que ça soit transparent, que les une fois que t'as installé les émotions c'est... et tout ça, que tout le décorum ne se vienne pas que les joueurs viennent pas le percuter et du coup qu'on casse l'ambiance qu'on a réussi à installer, les émotions qu'on a réussi à faire s'exprimer et tout ça.
Ça sous-entend aussi la parfaite maîtrise des règles.
Alors la parfaite maîtrise des règles, non, pas particulièrement. Alors, je vais d'abord répondre à Michael. Okay. Il me semble que on peut aller plus loin que ça, en fait. C'est pas seulement rendre le système transparent et la mécanique presque invisible pour pas qu'elle gêne les joueurs. C'est aussi leur filer des jouets. C'est là qu'on retombe sur le fameux coffre à jouets et leur dire, vous êtes dans le bâtiment en flammes, à quelques mètres de la rade, votre ennemi est en train de s'enfuir en remorqueur. Vous avez une grue. Est-ce que vous essayez de l'utiliser pour rattraper le remorqueur? On a parfois pêché des remorqueurs avec des grues, tout est possible. On leur file des jouets, des véhicules rigolos, on leur file des situations avec lesquelles ils peuvent s'amuser un peu. Et moi, personnellement, j'aime beaucoup filer à mes joueurs des objets qui ont l'air de pouvoir résoudre le scénar pratiquement eux tout seuls, qui s'avèrent très vite à l'usage ne pas pouvoir le faire, mais qui par contre risquent de produire beaucoup de bordel rigolo. Par exemple, quand on dit les jouets, il y a même un côté petite voiture. Ces temps-ci, je fais un peu de science-fiction. Récemment, les joueurs ont décidé de piloter leur véhicule volant à l'intérieur d'une station spatiale. C'était vraiment des jouets. Et on avait amené une espèce de plateau de jeu qui était une station spatiale avec des escalators dans tous les sens, des gens qui courent, des ascenseurs, des trucs qu'on peut éteindre, des trucs qu'on peut allumer, des méchants qui surveillent depuis le ciel, des drones un peu idiots qu'on peut facilement pirater pour les réutiliser. Bref, je leur file des jouets pour voir non seulement ce qu'ils vont trouver comme solution à leur problème avec ces jouets, mais aussi tout ce qu'ils vont pouvoir inventer comme trucs rigolos avec. Et quand on a un système qui le permet... ça devient extrêmement agréable d'avoir des joueurs qui fabriquent leurs jouets. D'avoir des joueurs qui, par exemple, vous avez un perso d'ingénieur, il y en a pratiquement dans tous les équipages de Space Opera, pourquoi est-ce que l'ingénieur, au lieu de se contenter de réparer le vaisseau, il pourrait pas de temps en temps fabriquer une machine rigolote, qu'on paramètre avec le MJ, qui va lui demander plus ou moins d'investissement en fonction de l'importance que ça va avoir dans le scénar. Mais donc par exemple moi récemment mes joueurs m'ont fait le plaisir de fabriquer une arme qu'ils appellent royalement le sèche-cheveux et qui ressemble à un gros canon EMP et qui permet d'éteindre le méchant droïde avec lequel ils ont des problèmes.
c'est une grosse télécommande.
C'est ça, si tu veux, sachant que bon, c'est quand même un canon, il faut quand même réussir à tirer dessus, il faut être à peu près à la bonne portée.
C'est un tournevis sonique, c'est ça ?
C'est ça. Mais en fait, c'est ça. À la limite, quand tu fais du space opéra, c'est-à-dire que tu commences à ajouter des notions un peu épiques et pas trop sérieuses dans de la SF, c'est vachement intéressant qu'il y ait de tout partout de ces machines formidables dont on ne sait pas vraiment comment ça marche. On utilise du techno-blabla pour mettre autour parce que ça fait joli. Et ça permet, en réalité, non pas seulement de résoudre des scénars, mais de démultiplier les possibilités de jeu. Et un des boulots du machiniste, finalement, c'est d'être aussi un peu le patron du manège à la fête foraine.
Mal à l'impression que ça me donne sur ce coffre à jouets, c'est que c'est vraiment un moteur à plaisir pour le MJ. Pour les joueurs aussi, hein. Mais au final, c'est un peu, tu leur donnes des bonbons et ils vont t'offrir carrément une galette de bonbons derrière. Parce que ce qu'ils vont faire de ces petits trucs, de cette petite brique de Lego, ils vont construire un truc énorme qui va te faire énormément plaisir. Donc j'ai l'impression que c'est donne et tu recevras encore plus, quoi. Alors c'est des propos un petit peu trop limites.
C'est très chrétien.
Voilà, c'est très chrétien. Mais... alors que c'est pas du tout le propos, vraiment pas. Mais c'est à ça que ça me fait penser. C'est voilà.
Mais c'est pas faux, hein, parce que
le MJ c'est Dieu. Tu lui donnes, il te rendra au centuple.
Alors d'abord, c'est une interprétation possible, effectivement.
Voilà. D'une part par les XP.
Non mais c'est ça que ça me fait penser. C'est-à-dire tu fais plaisir aux joueurs, mais aussi, il ne faut pas oublier que tu te fais plaisir aussi à toi, quoi. Donc c'est donnant-donnant, en fait.
Et puis, tu leur donnes aussi les moyens, non seulement de s'amuser avec toi. Alors ça, c'est un... Donc, ça fait partie des choses qui font question sur la fonction de machiniste, dont on a pas mal discuté récemment, notamment sur des forums. C'est est-ce qu'on se permet d'être vraiment l'adversaire de ces joueurs lorsqu'on fait les méchants ? Notamment moi qui suis un peu l'avocat, enfin un des avocats de ce principe, c'est que si vous avez l'occasion de jouer un combat avec vos joueurs et que vous vous contentez de le mettre en scène pour eux, ils vont sans doute bien s'amuser, peut-être vous aussi, mais ils sont les seuls à jouer. Et vous, vous êtes MJ dans votre tour d'ivoire, vous regardez ça d'assez loin, et vous n'êtes pas vraiment impliqué émotionnellement. Comme on l'a dit au début, c'est vrai que si vous ne ressentez pas grand-chose, si vous ne vous laissez pas émouvoir par ce qui se passe, vous n'allez pas avoir beaucoup d'émotions en stock à leur transmettre. Alors que si vous décidez de descendre dans l'arène pour vous battre avec eux, et que vous avez votre troupeau de gobelins et que vous attaquez... leur ranger, leur guerrier nain et leur petit chariot, vous allez pouvoir vraiment jouer contre eux pendant un moment. Et non seulement ça donne une adversité qui est vachement plus vivante et vachement plus motivée, il y a une compétition qui prend évidemment une importance très importante, et en plus, mes camarades me font des signes, il est vrai que si on commence à appliquer les règles vraiment sérieusement, voire de manière extrêmement rigoureuse, et que tout le monde joue de la même manière, d'un seul coup, vous savez qu'avec un peu de chance, si GoMJ se donne vraiment du mal, avec son gobelin borgne, avec un cimeter ébréché, il peut réussir à vous faire sauter quelques doigts ou une oreille, et il y a une vraie adversité qui se met en place. Ça peut, évidemment, c'est pas du tout limité au combat, ça peut se faire à chaque fois que vous avez un système qui vous permet en fait de tirer vraiment profit d'une confrontation, quel que soit le niveau ou la nature de cette confrontation. Et on parlait un peu de Mouse Guard il y a quelques temps, c'est par exemple effectivement un jeu qui en théorie permet de faire ça sur enfin, comme tout le système Burning Wheel, sur des oppositions sociales, sur des guerres médiatiques par journaux interposés, sur des poursuites sur les toits humides de la ville médiévale, etc. Et tout ça, c'est aussi des moments où vous allez pouvoir vraiment jouer avec vos joueurs.
Non, puis si les joueurs ont le sentiment, on parlait de Star Wars, mais tu vois, en revenant au Star Wars D6 originel et au délire autour des films, ils savent qu'ils sont immortels. C'est, je veux dire, c'est entre guillemets le pitch de base du jeu, quoi. Vous savez que, et je trouve que forcément on perd tout de suite quelque chose, alors que vous jouez à un jeu où vous savez que le système est résolument mortel, et bon, déjà la mécanique le permet, et après derrière vous savez que votre MJ, bah, il pose comme postulat que de toute façon, bah, si les dés disent que, bah, voilà, et puis si le système permet de tuer, ça prouve bien que la mort, elle doit pas forcément se passer que d'un côté. Donc voilà, ouais, je pense que de temps en temps, un mort dans un groupe, alors il y a plusieurs façons de le faire, bien sûr, mais on peut aussi s'arranger avec le joueur quand un joueur veut changer de perso, mais les autres sont pas au courant, etc. Mais je pense que le support dramatique de ça, savoir qu'on peut mourir, ça fait remettre le comportement des joueurs, voilà, les pendules à l'heure, vraiment, ouais. Je trouve que c'est nécessaire.
Ouais. Eh bien, je vous propose qu'on fasse une petite pause et on revient, ouais, tout de suite
on
après.
Va tous prendre une douche, à tout de suite.